Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque ce mouvement de grève dans l'enseignement. Jeanne Cancard, vous êtes sur place avec Charles Baget dans la capitale. La manifestation s'est terminée, ça s'est bien déroulé dans le calme ?
Oui, Laurence, la manifestation s'est déroulée globalement dans le calme. Une manifestation qui a regroupé beaucoup de monde. Alors, il est trop tôt aujourd'hui encore à cette heure-ci pour vous donner les chiffres exacts de cette mobilisation, que ce soit du côté des syndicats ou bien du côté du ministère de l'Éducation nationale. Mais nous, ce qu'on a vu, eh bien, c'est plusieurs milliers de personnes qui sont descendues aujourd'hui à Paris dans les rues pour clamer leur colère, leur épuisement. Des enseignants qui étaient aussi accompagnés de parents d'élèves. Vous venez d'en entendre certains. Ils étaient aussi soutenus par des directeurs d'école et même les inspecteurs académiques faits plus rares. Alors, au-delà du corps professoral qui était présent évidemment dans ce cortège, il y a aussi de nombreux politiques qui se sont invités à cette manifestation. Un air de campagne planait au-dessus de ce cortège parisien, des politiques principalement de la gauche. Anne Hidalgo est venue furtivement dans cette manifestation. Elle a très vite été chahutée. Une cohue s'est créée entre les journalistes et les manifestants qui voulaient venir l'interpeller. Anne Hidalgo qui a voulu apporter son soutien mais qui a dit qu'elle n'était pas au gouvernement, donc pour l'instant elle ne pouvait rien faire. Il y avait aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon qui était présent, ou encore Christiane Taubira, ou encore Olivier Faure et Éric Coquerel, ainsi que Alexis Corbière que nous avons pu croiser dans les rangs de cette manifestation. Ce qu'on a entendu surtout, eh bien, c'est ce ras-le-bol et puis surtout ce sentiment de mépris qu'ont les enseignants de la part du gouvernement concernant la gestion de la classe, de la crise sanitaire. Ces enseignants qui demandent d'être entendus, ils disent que c'est eux qui sont sur le terrain, ils dénoncent, eh bien, un ministère de l'Éducation nationale totalement déconnecté de la réalité. Et finalement, ils ont été entendus puisque Jean Castex va d'ici une demi-heure recevoir les représentants principaux des syndicats de l'enseignement du primaire et du secondaire. Il sera accompagné évidemment aussi du ministre Jean-Michel Blanquer, mais aussi d'Olivier Véran, qui sera donc là, eh bien, à distance, vu qu'il a été testé positif à la Covid-19 dans l'après-midi. Jean-Michel Blanquer, on le sent, c'est l'homme qui cristallise la colère en ce moment des enseignants, c'est le nom qui a été scandé pendant tout le cortège. Les enseignants, qui certains sont encore optimistes et espèrent que dès ce soir, des réponses concrètes seront apportées quant aux moyens à mettre en place, que ce soit du capteur de CO2 jusqu'au remplacement massif des enseignants absents.
Merci beaucoup Jeanne Cancard avec Charles Baget. Patrick Caram, vous comprenez ce ras-le-bol général en fait, partagé par les profs, les parents et certains élèves quand ils sont assez grands, même petits, on l'a vu.
Jean-Michel Blanquer avait appelé à une unité nationale derrière l'école. Ben là, il a réussi son coup. Tout le monde effectivement est dans la rue contre lui, parce que là, ce qui se passe est totalement historique. Vous avez tous les syndicats unanimes de l'Éducation nationale qui appellent à manifester. Vous avez même les syndicats d'inspecteurs de l'Éducation nationale. C'est quand même pas rien, c'est pas un acte anodin. Vous avez ceux qui sont les ATSEM, vous avez les syndicats de collectivités qui travaillent, des agents qui travaillent dans ces écoles-là. Ils sont tous, même les médecins, les infirmières, les infirmiers scolaires ont appelé à manifester. Vous rendez compte, cette unanimité, ça veut dire qu'il y a un malaise. Et ce qui me gêne, c'est que ce malaise, Jean-Michel Blanquer n'a pas l'air de l'entendre. Vous savez que ce malaise ne date pas d'hier. Les enseignants ont été héroïques, je vous le dis, pendant toute cette période de 2 ans, alors que ils étaient systématiquement informés en dernière limite des mesures du gouvernement annoncées par Jean-Michel Blanquer, comme là cette fois-ci, quelques heures avant la rentrée scolaire, alors qu'ils n'avaient pas ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire ils n'avaient pas des capteurs de CO2, ils n'avaient pas la possibilité de purifier certaines salles de classe, ils n'avaient pas les masques adaptés, etc. On peut faire toute une liste, ils ont tenu bon. Ils se sont pliés à toutes les demandes de l'Éducation nationale pour laisser les écoles ouvertes. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un sentiment de malaise. Et pour le gouvernement, c'est là que ça devient intéressant, parce que nous sommes en période préélectorale pour le président de la République. Ça, c'est une situation de tous les dangers. Parce qu'il a, aujourd'hui, avec Jean-Michel Blanquer, un homme dont il espère qu'il peut capter des voix de droite. Il peut pas le virer. D'abord, on peut virer pas un ministre à quelques encablures d'une élection, mais c'est en plus un homme qui parle à la droite. Donc le virer, ça va lui poser un problème. Et en même temps, il peut pas le laisser face à une opinion publique aujourd'hui, alors, massivement contre lui.
Emmanuel Ménard, qu'est-ce qui vous marque, vous, dans cette mobilisation du jour ?
Mais moi, il y a un mot qui me frappe, parce que c'est le mot qui revient le plus souvent ces dernières semaines dans les discussions quand on parle avec les gens dans la rue. rue, dans les familles au moment des fêtes de Noël, c'est le mot mépris. Et on l'a encore entendu là, le mot mépris. Et en fait, les enseignants et le personnel éducatif en général, mais les parents d'élèves également. Ils nous disent, en fait, on est au courant de rien, on apprend tout à la dernière minute, on apprend tout en même temps que les médias, on apprend tout en même temps que tout le monde, on n'est pas concerté. Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que on a eu ces discussions, voilà, on est député, on a eu cette discussion sur le pass vaccinal dans l'hémicycle la semaine dernière, mais en fait, le gouvernement a jugé la situation suffisamment urgente pour accélérer le calendrier, l'agenda parlementaire et faire revenir les députés en commission pour étudier ce texte entre Noël et le Nouvel An. Donc, c'est qu'ils étaient conscients de l'urgence de la situation et de l'évolution de la situation sanitaire en France. Ils sont conscients de ça, ils font revenir les députés pour qu'on puisse travailler sur un texte. Ils ont raison, c'est normal, si la situation est urgente, il faut la traiter. Mais pas à un seul moment, ils se sont dit que peut-être ça allait avoir des répercussions justement sur la rentrée scolaire. La moindre des choses, si on n'avait pas le temps d'équiper les écoles et tout ça, la moindre des choses, c'était justement d'anticiper pour pouvoir donner au moins les masques FFP2 aux professeurs. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire. Et même ça, on ne réussit pas à le faire. Même ça, on n'arrive pas à anticiper. Puis alors, la semaine dernière, la cacophonie du protocole sanitaire qui change tous les deux jours. Pardon, mais c'est vrai que pour les enseignants, c'est... Et les directeurs d'école, c'est absolument ingérable. Et puis pour les parents, encore plus. Enfin, vous l'avez tous vu comme moi, les files d'attente devant les pharmacies pour faire tester les gamins. Vous imaginez quand vous en avez deux ou quand vous en avez trois. Parce que le lundi, c'est un enfant qui est cas contact, donc il faut venir le chercher en urgence, le faire tester. Mais le mardi, c'est le second qui est dans une autre classe. Et le jeudi, c'est le troisième. Et donc, on n'arrête pas. Et les parents, tous les jours, ils sont en train de faire tester leurs enfants. Et ça, c'est juste pas possible. Donc, il y a un minimum d'anticipation qui, et je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas eu lieu. Franchement, je ne comprends pas.
Alors, c'est vrai que Jean-Michel Blanquer est un bouc émissaire un peu facile. On va peut-être écouter la réaction de Jean-Luc Mélenchon, recueilli par Europe 1. Lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Écoutez les mots qu'il emploie pour parler du ministre de l'Éducation nationale.
C'est ça qu'a réussi Blanquer. Hein. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à remettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. Je pense qu'un crétin pareil est utile. Hein. Bon, c'est quand même. Faut laisser leur chance, hein. Faut laisser leur chance aux bons à rien. Ben oui, aussi, il y en a. Bon, toute plaisanterie mise à part, on n'en peut plus, quoi. Comprenez-le, c'est même plus idéologique ni politique. C'est juste, vous êtes prof, vous êtes directeur d'une école, les consignes changent tous les jours. Ou tous les deux jours, c'est ingérable.
Voilà pour Jean-Luc Mélenchon. François Pupponi, vous appréciez ?
Non, mais moi, je suis surréaliste. Enfin, quand on fait de la politique, quand on est candidat à l'élection présidentielle, qu'on insulte un ministre comme ça, ça n'a pas de nom. Dans l'état du pays. Bon, après, il y a un loupé. C'est évident que le protocole, il n'est pas applicable. Tout le monde le dit, donc il faut le changer. Ce que j'espère, c'est que le Premier ministre, ce soir, va dire « Ok, ben, on en a tiré les conséquences et on change ». Après, bon courage pour trouver une solution efficace. Pour garder les écoles ouvertes tout en essayant de tester les enfants. Bon, mais on voit bien que ça passe pas. Bon. Après, effectivement, Michel Blanquer, alors on comprend pourquoi Jean-Luc Mélenchon l'attaque, même si c'est vulgaire et grossier de sa part. C'est que c'est quand même Jean-Michel Blanquer un poids lourd du gouvernement. C'est celui qui incarnait une certaine laïcité, un certain combat contre le wokisme. C'est le mettre en difficulté dans le cadre de la campagne électorale. On voit bien la stratégie. Par contre, je pense qu'il n'est pas du tout responsable de la manière dont le protocole sanitaire a été mis en place. C'est pas de sa responsabilité. C'est sûrement, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une explication l'autre jour au Conseil des ministres, c'est sûrement le ministère de la Santé qui avait mis ça en place. Mais ce n'est pas réaliste, ce n'est pas applicable, et donc il faut en changer.
C'est ce qu'il a dit d'ailleurs.
Emmanuel Ménard.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, mais moi, c'est pas moi qui décide du protocole, c'est les ARS qui décident, en gros, le ministère de la Santé. Donc c'est un peu facile. Et c'est vrai que la réaction de Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu pathétique, pardon.
Karim Zerbi.
Non, sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon, moi je ne supporte pas et je ne le supporterai jamais lorsqu'un homme politique insulte un autre homme politique. Je veux dire, si c'est comme ça qu'on matérialise nos désaccords dans le pays, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la violence à la rue au moment des manifestations. Un homme politique, je suis désolé, quelque part il est une référence aussi. Qui plus est, quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle et qui a rallié à lui plusieurs millions de voix. On ne traite pas de crétin le ministre de l'Éducation nationale. On dit que l'on n'est pas d'accord avec lui, on dit que son protocole est inapplicable, est certainement inefficace, et qu'il génère de la colère dans les rangs de l'éducation nationale, mais aussi des parents d'élèves qui apportent leur soutien aux enseignants. Donc on dit tout ce qu'on a à dire sur ces désaccords, mais on ne traite pas un ministre de l'Éducation nationale de crétin. Moi je trouve que cette politique-là, aujourd'hui, il faut la condamner sans aucune hésitation. Et quel que soit le bord politique qui insulte un autre bord politique. Ensuite, sur le protocole, évidemment, mais qui peut être surpris de la colère des enseignants aujourd'hui ? Vous avez un protocole qui est inapplicable.
et dont on n'est pas certain de l'efficacité. Comment voulez-vous que des enseignants se transforment en assistants médicaux, donc, en passant leur journée à contrôler le nombre de tests, donc, les attestations, donc, les enfants potentiellement qui ont des symptômes et qui se plaignent? C'est pas gérable. Les écoles qui sont ouvertes, c'est tout à fait louable comme décision politique. Je pense qu'effectivement, l'exécutif a bien fait de laisser les écoles ouvertes, mais derrière, si on propose un protocole qui est inapplicable, donc on est dans une forme de schizophrénie et d'incohérence auquel il faut apporter une réponse. Moi, je suis favorable à ce qu'on laisse les enfants tranquilles. Omicron n'est pas maîtrisable. La pandémie file à une telle allure qu'il faut protéger les enfants vulnérables, qui ont des pathologies, donc il faut protéger les adultes vulnérables, mais il faut cesser d'enquiquiner les enfants qui sont en bonne santé, qui vont attraper Omicron, qui vont avoir un peu de fièvre, un peu de tout, et qui seront immunisés. Moi, bon, je trouve que ce que nous proposons là, quelque part, dans la balance bénéfice-risque, risque plus à nos enfants sur le plan psychologique, sur le plan des impacts collatéraux négatifs, que de la protection qu'on est censé leur apporter avec ce protocole qui est inapplicable.
Qui est d'accord? Patrick Caram, vous êtes d'accord avec ça?
Alors, juste un mot quand même sur Mélenchon. Quand il dit crétin utile, en fait, il fait référence à Lénine, idiot utile de Lénine. C'est-à-dire ceux qui, en réalité, font vote politique sans le savoir. Voilà, donc il dit à Mélenchon, chapeau bas, grâce à vous, ben, les gens qui... les enseignants... C'est un enjeu quand même. Près de 1 980 000 enseignants à l'éducation nationale, ben, maintenant, dorénavant, ben, ils vont pas aller chasser du côté de Macron, ils vont aller ailleurs, peut-être chez moi, Mélenchon. Maintenant, sur cette question de protocole, Valérie Pécresse avait proposé quelque chose de simple. Décaler la rentrée, on allait pouvoir rattraper. On l'a fait déjà lors de la dernière vague pandémique. Elle l'avait proposé, le gouvernement avait commencé par dire non et puis a accepté. Est-ce que le gouvernement ne l'accepte pas cette fois-ci parce qu'on est à 3 mois de l'élection? Ça n'a pas de sens. Quand on est en situation, on ne doit pas tenir compte des contingences électorales mais de l'intérêt du pays. Moi, j'accuse, je vous le dis de manière très claire, ça n'est pas simplement Véran, c'est aussi Blanquer, je les accuse tous les deux, de manquer de sens d'intérêt général.
Emmanuel Ménard, un dernier mot.
Non, moi je pense pas, contrairement à vous, je pense pas que décaler la rentrée scolaire, ça aurait été une bonne idée, parce que
on l'a fait la fois précédente.
Oui, on l'a fait la fois précédente, sauf que là, en fait, vous retrouvez la semaine suivante avec exactement la même situation sanitaire, vous aurez fait perdre une fois de plus 8 jours d'école aux enfants, vous ferez perdre aux parents qui seront obligés de trouver des modes de garde à la dernière minute, la possibilité de faire leurs activités professionnelles. Et en plus, mais ça ira dans votre sens, et en plus, effectivement, malheureusement, on n'a pas pris les mesures dans les écoles pour faire en sorte que, si besoin était de les fermer un jour, l'enseignement à distance pourrait se faire dans de bonnes conditions, parce que malheureusement, ça, c'est encore un truc qui pêche. On a essayé de le faire avec le système débrouille pendant le premier confinement, et en fait, on voit bien que ça a marché plus ou moins en fonction des écoles et des moyens des écoles. Et aujourd'hui, si on devait le refaire en urgence, je crois qu'on serait dans la même situation qu'il y a un an et demi. Donc ça, c'est un vrai problème.
Ça marche aussi en fonction des territoires. Quand il y avait des zones creuses en matière d'Internet, donc ça passait pas. En fonction des parents, s'ils avaient les moyens d'avoir un ordinateur ou pas, c'est pour ça que Valérie Pécresse a donné des ordinateurs à tous les lycéens. Ça a marché plus ou moins parce qu'il a fallu former
en
Ile-de-France, même parce qu'elle est présidente de l'Ile-de-France.
La question, c'est à partir du moment où les spécialistes nous disent on va quasiment tous l'attraper, ce virus.
Je suis d'accord.
On ne peut plus.
Donc, Olivier Véran est positif.
Voilà, laissons filer, protégeons ceux qui sont les plus à même d'avoir des formes graves, bien sûr les non vaccinés, bien sûr ceux qui sont vaccinés mais avec des pathologies. Et puis on verra bien, parce que si on doit mettre tout le monde arrêté une fois qu'on l'a et tous les cas contacts, ben, le pays s'arrête.
C'est bien pour ça que dans certains pays, s'occupe des plus de 60 ans vulnérables. C'est bien pour ça que dans certains pays, pour ne pas le citer par exemple le Danemark, on nous dit de toute façon dans 2 mois la situation sera réglée, parce que comme tout le monde aura eu le virus, donc on sera tous immunisés.
On va changer de sujet, on va parler de sécurité, on va aller du côté de Noisy-le-Sec, où vous le savez il y a eu cette agression avec un homme qui a été traîné en voiture sur plusieurs centaines de mètres. On verra ce que risquent ces agresseurs. On a une nouvelle vidéo qui prouve qu'il y avait un troisième homme à l'intérieur de la voiture. On entendra le cynisme, la désinvolture dont font preuve ces 3 passagers à l'égard de ce pauvre homme qui a été gravement blessé. À tout de suite dans Punchline.